Nous étudions toujours l'épître aux Galates. Nous sommes en train d'étudier ensemble. Les églises de la Galatie pour lesquelles que Paul avait écrit cette épître, aujourd'hui, ces églises-là n'existent plus. Mais quelque part dans le monde, il y a toujours une forme de représentation de ces églises-là. Et dans son introduction, si vous remarquez, contrairement aux autres épîtres ou lettres de Paul, Paul n'exprime aucune parole d'affection. Il a toujours un petit mot d'affection dans toutes ses autres épîtres. Dans celui-là, il n'exprime aucune parole d'affection. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les gens de Galates. Au contraire, il a un cœur rempli de douleur pour eux. Il a mal au ventre pour eux. Après les salutations d'usage dans les 5 premiers versets, au 6e verset, il expose leurs problèmes. Il fait plonger la lumière dans leurs ténèbres et après, il leur donne la solution. Mais c'était quoi le problème des gens de la Galatie, des chrétiens de Galate? On a un petit résumé qu'on peut faire dans la lecture de la parole, Galates 3, et les 5 premiers versets. Galates 3, les 5 premiers versets. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur sa portion d'Écriture pour la plus grande édification de nos âmes. Amen. La question est lancée par Paul. Qui vous a fasciné? Ça me fait penser un petit peu à la question que Dieu avait posée à l'homme dans le jardin et vous me voyez venir. Qui t'a appris que tu es nu? En d'autres termes, qui est ce nouvel intermédiaire qui t'amène à avoir une autre perspective de la vie? Qui vous a fasciné? Et lorsque Paul emploie ce terme de la fascination, on ne doit pas entendre ce terme comme nous l'entendons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce terme-là a une connotation très positive. Lorsque quelqu'un dit qu'il trouve quelque chose de fascinant ou qu'il trouve quelqu'un fascinant, c'est pour faire l'éloge de cette personne-là. C'est pour sortir tout le bien qui en découle de cette personne. Ça a une connotation positive. Mais ici, ce n'est pas de la même façon qu'il faut l'entendre lorsque Paul parle de fascination. Le mot fascination, c'est un mot qui est riche de synonymes dans notre langue française. Beaucoup de synonymes. Et pour nous aider à comprendre quel est le défi que Paul a avec les chrétiens de Galates, on va lire quelques synonymes. J'ai demandé à Pasteur Brousseau de les étaler à l'écran avec des brefs commentaires. Synonyme du mot fascination, un attrait irrésistible. Alors, c'est comme ça, se sent le fasciné. Un appel, il se sent appelé. Un ascendant, il y a quelqu'un qui domine sur lui. Une attirance, une attraction, un éblouissement, Et là, on commence à perdre le sens. Un émerveillement de l'inoptisme. On est sous l'effet d'un enchantement, d'un ensorcellement, d'un envoûtement. On est sous influence, on est magnétisé. On est sous le ravissement. C'est captivant, c'est subjugant, troublant et pour finir, séducteur et séduisant. Qui a fait tout ça en vous? Qui vous a fasciné? C'est une question de nature pédagogique, afin de travailler les consciences, afin que les chrétiens puissent vérifier la source de ce qu'ils croient. Est-ce que ça vient de la prédication de la foi? Remarquez bien, les gens n'ont pas été fascinés contre leur gré. Ils se sont laissés fasciner. Monsieur Régent Raté, tu me donnes la permission de partager un volet de ton enseignement mardi que j'avais suivi. Okay, tu m'en donnes la permission. Okay. Monsieur Raté, ici présent, nous avait dit une des caractéristiques du faux docteur ou du faux prophète, c'est qu'il peut avoir un langage qui ressemble étrangement au vrai docteur. Il peut s'exprimer comme le vrai docteur s'exprime, avec citation à l'appui. À les entendre parler, on peut penser vraiment que c'est des hommes de Dieu. Mais la source et le contenu de leur message n'est pas de Dieu. Ce sont des hommes qui ont la force de la persuasion du langage. Les deux forces principales de la séduction, c'est l'apparence et la forme du langage. Dans le milieu d'où ce que je viens, et plusieurs personnes ici vont se reconnaître, sont témoins de cela, il y a quelques années, un homme qui avait un langage extraordinaire, l'esthétisme des mots, l'élégance, il disait tout de manière vraiment bien. Et je viens dans une culture où ce que le bien parler est une valeur. Tout le monde a cru en cet homme-là. Personne ne pouvait imaginer que cet homme-là était un démon. Mais un jour, Dieu a révélé le cœur de cet homme-là. Et on a vu que cet homme-là, c'était un vaudouisant qui s'était déguisé en pasteur, avec le message à l'appui. Et ce pasteur avait beaucoup d'influence, parce qu'il misait beaucoup sur sa façon de parler, il pouvait séduire, et il arrive avec une nouvelle doctrine. Il dit, l'Évangile doit être cohabité avec le vaudouisme. Peut-être pour vous, ça ne fait pas grand-chose, ça n'a pas d'allure. Mais pour les personnes qui ont un arrière-plan vaudoïque, ce n'est pas la même chose. Pendant que la moitié de cette population sont encore captives de ces pratiques inutiles, où il n'y a pas de vie du tout, ce n'est pas la même chose. De voir un ténor de la parole de Dieu annoncer cela, ça a bouleversé notre communauté au point que des hommes se sont levés. On a réclamé un débat avec lui. Personne n'osait l'affronter parce qu'il était caliste, un érudit. Et dans ce débat, eh bien, les leaders de la communauté sont revenus avec les cinq solas que les réformateurs nous avaient laissés comme héritage, comme expression, parce que c'est quand même dans la parole. Sola scriptura, l'écriture seule. L'écriture seule fait autorité en matière de foi. L'écriture seule place les barrières du dogmatique, c'est-à-dire ce qu'il faut croire ou ce qu'il ne faut pas croire. sola fide, la foi seule, le seul moyen de salut. Les Saintes Écritures nous disent que le salut s'obtient seulement par le moyen de la foi en 115 occasions, avec un point final après. Sola gratia, la grâce seule. La grâce seule peut nous sauver. Solis Christus, excusez mon accent, je ne parle pas latin. Le Christ seul, le seul rédempteur, le seul auteur de notre salut. Et pour finir, soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. On l'a affirmé avec puissance. La gloire, c'est la position la plus élevée, c'est l'honneur la plus suprême. Et Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Ça nous explique pourquoi Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils en sacrifice pour nous. Nous sommes sa gloire et il ne donnera pas sa gloire à un autre. On a du prix aux yeux de Dieu. On a du prix à ses yeux. Ils ont la persuasion du langage. N'oubliez pas, dans le mot persuasion, il y a le mot suave. Ils peuvent dire les choses d'une manière que ça chante à l'oreille. Regardez ce que Paul, lui, il dit dans 1 Corinthiens 2. Et je lis pour vous. Je ne vais pas lire dans ma Bible, je vais lire l'écran au cas où il y aurait certaines différences. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un grand état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul n'est pas venu avec l'éloquence de la sagesse, ni des mots, ni du savoir parler, rien du tout. Paul prêchait de cela à des intellectuels. C'était des docteurs du temps. C'était des gens qui pouvaient créer des débats autour de la façon dont ils pensent. C'était des gens qui étaient calés, qui pouvaient lire des encyclopédies sur la sagesse humaine. Comment avoir une recette pour augmenter sa personnalité? Comment relever notre estime de soi? Paul dit, je ne suis pas venu avec cette sagesse-là. Je suis venu prêcher le Christ, mais le Christ crucifié. Je suis venu prêcher une personne. Non pas des dogmes, non pas des recettes, je prêche une personne. En plus de ça, cette personne-là est sur une croix. La croix, comme nous le savons, c'est l'endroit le plus dégradant qu'un être humain puisse se trouver. C'est humiliant, la croix. Il n'y a rien de noble dans la croix. La mort du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas une mort héroïque. La mort de Jean-Baptiste est une mort héroïque. On lui a tranché la tête. La parole de Dieu dit, « Maudit quiconque est pendu au bois, c'est la mort de la honte, c'est la mort de l'ignominie. Il a été meurtri par le foudroyant jugement de Dieu. » Mais Paul ajoute, c'est à notre place qu'il est là. Attends, on va comprendre le raisonnement de Paul. C'est-à-dire, la place de tout homme devrait être sur cette croix. Maintenant, si c'est là la place de tout homme, que vaut sa sagesse? Que vaut la grandeur de cet homme-là si sa place est à la croix? Dieu met à néant sa sagesse. Ça n'a aucune valeur. Isaïe 2, 22 le dit, finissons-en avec l'homme. Quelle est la valeur de l'homme? Son souffle est dans ses narines. Arrêtez de vous confier dans l'homme. Arrêtez même de vous confier en vous. Vous savez, la confiance en soi, c'est une notion quasiment inexistante dans la parole de Dieu. Lorsqu'on va avoir des personnes qui vont nous donner un culte de la personnalité, ils vont travailler sur notre confiance. Oui, tu vas être capable. Mais comme disait ce matin M. Emmanuel dans le conseil, mais si je suis tant capable comme ça, pourquoi ma vie est rendue là? C'est une notion qui est inexistante, la confiance en soi. Dans le domaine sportif, on va booster les athlètes pour qu'ils aient confiance pour la victoire, et puis la personne qui démontre le plus de confiance en lui semble toujours remporter la victoire. Peut-être c'est vrai dans cette sphère-là, mais dans la sphère spirituelle, la confiance en soi-même est à bannir. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, dit l'Écriture. Et Paul était en train de parler à des hommes qui s'appuyaient sur leur propre sagesse. S'appuyer sur notre propre sagesse peut être un ennemi plus redoutable que Satan lui-même. On est séduit par soi-même. Nous avons vu ce matin sur vidéo où ce que le gars dit, j'ai entendu parler de Jésus. C'est ça qu'il avait dit, hein, Matthieu. C'est fini. Sa vie est changée. Ce n'est pas une encyclopédie des recettes de bonheur. Tu as besoin de Jésus. Et sa vie est changée. Nous avons entendu le témoignage. Ça ne prend pas une thèse de doctorat pour aller dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de faire sa rencontre. Moi, ce n'est pas des miracles qui m'ont amené au Seigneur. Dans le temps où j'ai reçu le Seigneur, ma vie allait plutôt bien. C'était les meilleurs moments. J'avais une job à Saint-Eustache, le plus payant que j'avais eu dans ma vie. J'étais ce qu'on appelait, j'ose pas le dire, une star. Il y a cette place-là. Puis c'est là que Jésus-Christ est venu éteindre mon étoile pour mon salut. Oui, pour mon salut. Si j'avais goûté à la gloire du monde, je serais devenu fou, braqué. Parce que ceux qui goûtent à la gloire du monde, je les regarde, je dis, ben, ils sont bien étranges, les autres. C'est quelqu'un qui est venu me parler de la croix. Il m'a dit, Pierre, les mains du Seigneur qui sont sur la croix, ça devait être tes mains. C'est tes mains que les clous auraient dû percer. C'est toi qui aurais dû être attaché à la croix. Mais le Seigneur prend ta place. Et j'ai compris qu'il était mort personnellement pour moi. C'est la croix qui m'a amené au Seigneur. L'évangile de la croix. Cet évangile qui ne fait pas de marketing. Écoutez, Jésus-Christ est quasiment nu sur cette croix-là. Comme pour dire, voici la condition de l'homme dans le jardin. Il est nu. Aujourd'hui, cet homme que je parlais, qui disait que ça prend une cohabitation entre le vaudouisme et le christianisme, aujourd'hui, il est devenu un antithéiste farouche. Il ose proclamer que Dieu a perdu le contrôle sur sa création. il avait le langage. Mais revenons aux Galates. Que serait un faux évangile? Parce que les Galates ont été subjugués par un faux évangile. Un faux évangile prend la forme, peut prendre beaucoup de formes. Un faux évangile, c'est comme de la fausse monnaie. Tu glisses cette fausse monnaie-là au milieu de du bon argent et ça peut peut-être passer. Si tu arrives avec un panier de fausses monnaies, ça ne marche pas. Mais si tu le mélanges avec quelques, ça peut peut-être passer. Ce n'est pas des idées que je vous donne, là. Okay. S'il vous plaît. Des fois, dans le temps des apôtres, oui, on veut garder la foi, mais on doit conserver la pratique de la circoncision et comme aussi, comme condition à salut. Par des hommes qui avaient le langage dans une culture où ce que, depuis Abraham, Moïse, aujourd'hui, dans notre culture, ben, les chrétiens ne se chicanent pas pour la circoncision. Mais dans cette culture, on entend les ténors qui vont dire, mais qu'y a-t-il de mal dans la circoncision? Depuis Abraham, depuis Moïse, on pratique ça, depuis tous les Juifs, on... qu'y a-t-il de mal? C'est notre tradition. On le garde comme condition à salut. Non, non, les apôtres, on va se réunir là. On va faire un concile. Et dans ce concile, les apôtres déclarent, il a paru à nous et au Saint-Esprit. Il a paru à nous. Notre bon sens aussi est aussi là. Et au Saint-Esprit, parce que c'est lui, c'est sa parole, c'est son œuvre qui est à l'enjeu. Que l'homme n'a pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. S'il veut le faire pour d'autres choses, je ne discuterai pas là-dessus, mais pas pour le salut. Mais aujourd'hui, pour nous, quel serait un faux évangile? Quel serait un évangile différent? Par exemple, quelqu'un peut dire, oui, on garde la foi. Oui, on y croit dans la croix. Mais on ajoute. On va upgrader l'évangile. On va faire deux petits ajouts. On ajoute l'observation du sabbat comme condition de salut. Écoutez, je ne suis pas en train de laisser entendre que toutes les personnes qui sont en train d'observer cette journée du sabbat comme dans la loi de Moïse l'avait prescrite, que toutes ces personnes-là pense que c'est une condition au salut. Non, je n'affirme pas, ce serait malhonnête de le dire. Ces gens-là sont comme nous, ils attendent aussi la révélation suprême du Fils de Dieu. Ils ont le même espoir que nous. Ils sont malheureux dans ce monde et ils trouvent leur bonheur qu'en Jésus-Christ. Mais lorsque les grands ténors affirment, soit à mot couvert, ou à mot voilé, ou à mot ouvert, que l'observation du sabbat est une condition pour être sauvé. Alors je dis, moi, votre honneur, je m'objecte. Objection, votre honneur. Ça part, cet enseignement-là part d'un faux prémisse. Le faux prémisse, c'est celui-ci. C'est lui qui a ouvert la porte à tout ce faux enseignement-là. On a dit que Dieu, après avoir fait la création, va donner le commandement du sabbat. Et ce n'est pas vrai. Jamais. Dieu n'a pas donné un commandement pour le sabbat. La parole de Dieu nous dit, après le septième jour, Dieu lui-même entre dans son repos, à lui. Ce n'est pas un commandement qu'il donne à l'homme. Ce commandement est venu plus tard dans Exode pour Israël. D'ici là, aucun homme n'observait le sabbat sur la planète. Aucun homme dans le déluge n'observait le sabbat, tellement que lorsque quelqu'un avait violé ce commandement-là, les gens qui étaient là ne savaient même pas quoi faire. Ils ont dû aller voir Moïse pour régler la situation. Ce n'est pas un commandement d'ordre créationnel. Si c'était le cas, il serait tenu à tous les hommes de le suivre. On nous dit que Dieu va célébrer son œuvre. Et c'est une œuvre qu'il a célébrée une seule fois. Le terme « Dieu se reposa » n'est plus revenu dans les Saintes Écritures. Les seules places où ça revient, c'est toujours faire allusion au premier repos qu'il a eu. Pourquoi ? Dieu a célébré sa création. Tout ce qu'il a fait était bon. Mais après le péché, Dieu ne pouvait plus célébrer sa création. Comment que Dieu puisse avoir du repos dans un monde de maladies, de morts, de vols, de viols, de toutes sortes d'affaires, d'injustices? Comment Dieu saurait avoir du repos dans sa création comme cela? Ce que je vais dire est purement symbolique. Je vous l'avais déjà partagé une fois dans le péché, dans le passé. L'homme est né le sixième jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si on tient la symbolique des jours, l'homme serait né un vendredi. Donc, l'humanité est née un vendredi. Toujours dans la symbolique des choses, quel jour que le Christ est mort? Un vendredi aussi. Après, c'est le septième jour. Le Christ va être dans la demeure du silence, dans la tombe. Cette journée du sabbat-là, qui pouvait la célébrer alors que le Christ est dans la tombe? Qui pouvait avoir du repos? Qui pouvait avoir la paix? Même les éléments de la nature se sont révoltés contre cette mort horrible. La lumière a perdu son éclat, la terre est plongée dans les ténèbres. Impossible pour qu'un homme puisse avoir le repos dans cette journée du sabbat. Maintenant, on comprend pourquoi lorsque le jeune homme riche est venu dire au Seigneur, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur dit, « Tu connais les commandements ?» Et le Seigneur va citer maintenant sa loi. Il cite 9 des 10 commandements et il ne cite plus le sabbat. Le Seigneur a eu des détracteurs par rapport au fait qu'il guérissait au jour du sabbat et puis tout ça. Regardons ensemble dans Jean 5, verset 17, ce que le Seigneur va dire à ses détracteurs. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » D'autres versions nous disent, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » D'autres versions nous disent, « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dieu doit faire une œuvre. Il ne peut se reposer dans un monde d'injustice. Où est-ce que sa parole est bafouée tous les jours? Et maintenant viendra ce fameux premier jour de la résurrection. Le jour 1, qui est le jour de la résurrection, ce n'est pas pour remplacer le septième jour, la journée du sabbat. Il n'y a aucune autorité qui nous permette de le dire et de le faire. Ce n'est pas là pour remplacer. Ce septième jour du sabbat, c'était la dernière journée de l'ancienne création. Le jour 1, c'est un nouveau jour. C'est un jour qui n'existait pas avant. C'est le jour où ce que la lumière a vaincu les ténèbres, que la vie a vaincu la mort. Ce jour-là n'existait pas avant. C'est un nouveau jour. Voici pourquoi il n'écrit pas observer le jour du sabbat, car dorénavant, le Seigneur lui-même est notre repos. Un repos de nature spirituelle. Quelqu'un a écrit, j'aime le commentaire de quelqu'un qui a dit, le jour du sabbat, le septième jour, c'est un jour qui symbolise ce que l'homme fait pour Dieu. Mais le premier jour symbolise ce que le ciel a fait pour nous. Et là, il y a une toute autre dimension. Salut plus observation du sabbat. Ça passe pas. Mais aujourd'hui, c'est quoi sur un faux évangile? On peut être peut-être plus biblique dans notre faux évangile. On pourrait dire, oui, on garde la foi, mais on ajoute la sanctification comme moyen de salut. Doublé du verset qui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais là, c'est un petit peu plus torché, là. Parce qu'il y a un appel à la sanctification, et cela jusqu'à la fin de nos jours. Mais la sanctification doit garder la place qui lui revient. La sanctification, c'est la suite logique de ce qui arrive après la justification. Écoutez, à l'époque de Moïse, quel était l'homme le plus sanctifié de la planète? Moïse lui-même ne pouvait soutenir cette présence. Fais-moi voir ta gloire. Impossible de soutenir cette présence. Écoute, lorsque Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï, même Moïse, ami intime de Dieu, l'ami, le meilleur ami de Dieu sur la planète, c'était Moïse. Même lui était dans l'épouvante. Il n'était pas assez sanctifié. À l'époque d'Isaïe, quel était l'homme le plus sanctifié sur la planète? Isaïe, ce prophète-là, c'est un prophète un peu méchant, jeu de mots. Si vous lisez dans son livre, les 5e et 6e chapitres, vous allez voir toutes sortes de malheurs en tant que prophète qu'il prononce. Malheur à vous qui commettez l'iniquité. Malheur à vous, tu te lèves de bonne heure et tu es déjà saoul. Tu es déjà ivre. Malheur à vous, malheur à vous. Et lorsqu'il a une vision de la sainteté de Dieu, l'homme le plus sanctifié de la planète va dire « Malheur à moi, il n'était pas assez sanctifié. » Mais qui pourrait supporter la présence de notre Dieu? Qui pourrait supporter cette sainteté? Comment on peut avoir accès à son trône? Sola gratia, la grâce seule. Et c'est notre privilège à nous tous. Nous avons accès au trône de la grâce. Réjouissons-nous. Oui, amen. Réjouissons-nous. Vous savez, une image de la grâce se trouve dans Genèse. Je ne l'avais pas donnée à monsieur. Genèse 1, 28, vous pouvez trouver ça rapidement. Essayez de trouver ça plus rapidement que monsieur Bousseau. Vous l'avez? Ah, M. Bousseau a gagné. Genèse 1, 28. On va voir une image de la grâce. Il dit, d'abord, je vais commencer à lire à partir de 26. Si on peut reculer à 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, regardez ce qui est appelé. La grâce de Dieu. Dieu les bénit. Ils n'ont pas encore fait une seule œuvre. Ça commence par la bénédiction. Dieu les bénit d'abord. Après, Dieu va dire, voici tes responsabilités. Multipliez-vous, remplissez la terre, la sujétissez, dominez. Il reçoit même une autorité, une délégation d'autorité sur toute la création visible. Ça, c'est de la grâce. Premièrement, ils sont créés, ils ne peuvent pas avoir aucun mérite là-dessus. Ça, le débat finit là. Dieu les bénit, c'est ça la grâce. Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, voici ce qu'il fait. D'abord, il nous bénit. Et après, il nous dit, voici tes responsabilités. La loi est sur un système méritoire. La loi dit, si tu observes les commandements, si tu fais ces choses, tu vivras. Mais attention, ce n'est pas tu vivras éternellement. Tu vivras. Tu vivras cette vie-là. La grâce dit, je te bénis d'abord. Maintenant, sanctifiez-vous. Voici vos responsabilités. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Voici vos responsabilités. Offrez au Seigneur reconnaissance. En tout temps, en tout temps, en tout temps. Mais tout d'abord, je te bénis. C'est une autre dimension qu'est la grâce de Dieu. Si vous êtes des nouveaux convertis, des nouvellement nés dans la foi, voici votre responsabilité. Peut-être vous vous dites, j'aimerais m'impliquer à l'église, j'ai un don pour la musique, j'ai un don pour l'administration. J'ai un don pour le rangement, la nourriture. Voici votre responsabilité. D'abord, apprenez à recevoir de Dieu et tu sauras comment donner aux autres. Apprenez à recevoir tout l'amour de notre Dieu et tu sauras comment aimer les autres. Apprenez à grandir dans la grâce de Dieu. Et tu sauras comment pardonner. Tu sauras comment pardonner les autres. Et dans certaines occasions, comment nous pardonner aussi. Et me pardonner. Dieu t'accorde son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit, apprends à observer le Maître. Vois comment le Maître a servi son Père. Et maintenant, tu pourras venir servir avec nous. Et ça va être une joie incroyable, n'est-ce pas? Faites servir le Seigneur. Je te garantis le bonheur. Que ce soit, peu importe les circonstances de la vie, en bonne santé, malade, pas de job, peu importe les circonstances, Dieu te donnera sa paix. Ton cœur ne sera jamais troublé. Je te le garantis. Vous savez, l'apôtre Paul qui a écrit ça, Dieu lui a fait une grâce extraordinaire. D'abord, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut te dire, c'est un meurtrier, ce gars-là? Il avait le sang d'Étienne sur ses mains et puis il avait un agenda de plusieurs autres personnes à exécuter là. Il était un ennemi de la foi. Il y a comme deux abominations apparentes dans l'Écriture. Si on lit le livre des Proverbes, je pense que c'est 15, verset 17, vous allez voir deux abominations devant l'Éternel. 17, 15, oui, et merci. Il dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Paul est un coupable, il est un meurtrier et il est en liberté. Il y a une abomination apparente ici. Jésus-Christ est le juste et il est mis en croix. Il y a une autre abomination apparente. Il semble qu'il y a contradiction ici, mais dans la parole de Dieu, il n'y a aucune contradiction. Ce phénomène, c'est que on l'explique par le phénomène de la substitution, le phénomène de l'imputation. Le juste qui est à la croix prend la place de Paul, prend notre place aussi. Et nous qui sommes absous, nous les coupables, nous avons été justifiés par Jésus-Christ. C'est le phénomène de l'imputation. Et ainsi, nous avons la liberté. Sinon, ce passage qu'on vient de le lire serait pour nous une catastrophe inimaginable. Et on n'aurait aucun moyen de s'en sortir. Bon, j'ai assez parlé ce matin. Il faut que je vous conte ça, puisqu'on a parlé de la grâce, une petite histoire. Mais c'est deux prisonniers qui étaient condamnés à mort et on allait les exécuter. Et le roi leur dit, « Ben, puisque vous allez mourir, vous avez droit à une dernière grâce. Demandez, je vais vous l'accorder. » Il s'en va vers le premier prisonnier. Le roi dit, « Ben, puisque c'est toi qui vas être exécuté en premier, c'est quoi la grâce que tu me demandes ?» Il dit au roi, « Avant de mourir, j'aimerais entendre Pierre Véquin chanter une chanson. » Le roi lui dit, « Bon, je vais contacter son agent, on va voir si ça peut se faire. » Ça peut se faire, oui. Et le roi s'en va vers le deuxième, il dit, « Quelle grâce que tu veux ?» Il dit, « Dans ce cas-là, roi, j'aimerais mieux être exécuté en premier. » Donc, que le Seigneur bénisse.